Laura Adler, l'heure bleue sur France Inter.
Merci d'être avec nous ce soir, Julia Kristeva. Nous avions pensé diffuser une série sur Dostoïevski préparée depuis des semaines. Vous avez peut-être entendu André Markovits hier. Ce soir, c'est votre tour. L'histoire de l'Ukraine nous est tombée dessus comme le ciel nous tombe sur la tête. Je pense que, à l'aune des événements que l'Europe vit aujourd'hui, peut-être votre lecture s'en trouve-t-elle modifiée, Julia Kristeva ?
Modifiée, pas vraiment, parce que je trouve que Dostoïevski est tout à fait contemporain d'entre siècles et surtout à ce qui se passe depuis quelques jours en Ukraine. Je suis, comme tout le monde, en état de sidération face à l'impensable et en même temps, ça nous inspire une indispensable mobilisation et parmi les moyens de se mobiliser, je crois qu'il faut lire Dostoïevski. Il n'est pas un philosophe, il n'est pas un homme politique, évidemment il est encore moins stratège militaire parce qu'il pense en roman. Mais il a eu l'intuition d'inventer et d'élucider un roman qui fait partie de l'histoire de la pensée européenne, c'est-à-dire un roman polyphonique, d'élucider un phénomène qu'il appelle le nihilisme, qui me semble être la face intime du poutinisme. Toute l'œuvre de Dostoïevski en est traversée, mais ce nihilisme qui et ceux de croire, ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas, ils peuvent être tous les deux nihilistes, explosent dans son roman Les Démons, qui date de 1872 mais qui semble tout à fait contemporain, avec des personnages comme Chigaliov, Piotr Verhovensky, Stavrogin. C'est une sorte de lugubre pressentiment de ce que nous entendons aujourd'hui dans la destructivité, la marginalisation des corps, la violation de tout genre, d'hommes, de femmes, de leur pays, de leur culture, voire du viol, qui se trouve chez Dostoïevski, qui est la face ultime du nationalisme et du nihilisme, mais qui nous assaille dans les civilisations qui nous entourent, et même dans notre pays et dans le monde libre. Parce que Dostoïevski explore cette capacité du nihilisme universel, il dit « nous sommes tous nihilistes », parce qu'il est à la fois dedans et dehors, sans prendre parti, sa façon de faire face à ces tendances destructrices qui se couvrent de nationalisme messianique et de bonne pensée finit par apparaître comme une absurdité carnavalesque. Il appelle cette attitude d'être dedans et dehors un point de vue esthétique, mais ce point de vue esthétique n'épargne aucun de ses personnages, aucune idéologie. L'Europe elle-même, qui est à la fois rudoyée, mais qu'il redoit pour mieux l'adorer. Et c'est dans cette attitude-là, d'incessante interrogation, qui me semble aussi contemporain, dénoncer tous les abus, y compris ceux qui le tentent, lui, personnellement. Tout ce mal radical qui explose maintenant et par rapport auquel nous ne savons pas comment nous y prendre. Je constate dans mon livre que cette foi orthodoxe qu'il avait, cette culture russe dont il se réclame et qu'il appelle de ses voeux, est d'une part extrêmement messianique et se présente comme une suprématie identitaire, mais d'autre part, elle est en unisson avec ce nihilisme que lui explore et par rapport auquel nous sommes un peu en difficulté de le comprendre, en difficulté d'élucider, en difficulté de dialoguer avec. Et c'est pourquoi je pense à quelque chose dont on ne parle pas assez, à savoir qu'il nous faut, dans ces sombres temps, commencer à penser déjà à l'après-Poutine, après la guerre, à penser à cette culture russe du nihilisme et contre le nihilisme, avec ce Dostoïevski étrangement contemporain, qui fait partie de la culture européenne. Tout cela pour dire que si nous ne nous approchons pas de cette compréhension, hommes de culture et de romans comme Dostoïevski ont exploré non pas pour y adhérer, mais pour la décomposer, pour la disséquer, pour l'élucider, eh bien, nous manquons d'armes aussi et de compréhension de tous les mots qui nous assaillent dans les nationalismes émergents de tous les côtés du monde aujourd'hui. Pour ce qui est de l'Europe, je pense que l'Europe n'est Europe que de l'Atlantique à l'Oural, et nous avons besoin de la Russie comme partenaire privilégié, y compris parce qu'elle porte cette culture de la compréhension, d'élucidation et de la décomposition du nihilisme avec des plumes comme celle de Dostoïevski. Mais on est loin de cet horizon de la Russie comme partenaire privilégié. Et pourtant, il faut ne pas laisser cette Russie d'après-guerre se replier en Asie et étouffer ces latences libertaires que Dostoïevski porte en lui, même si quand il n'est pas romancier, mais quand il se fait journaliste et polémiste, il devient d'un fanatisme grand russien, comme il dit, voire d'un antisémitisme invétéré. La diplomatie, évidemment, est la voie royale qui va nous sortir de la guerre, et nous sommes tous attentifs à ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais à condition que, pour ce qui nous concerne, on s'appuie sur les liens et les complicités culturelles entre l'Europe et cette culture russe du dedans-dehors l'unilisme. Pour restaurer ces liens culturels, pour les développer, pour les rénover. Et Dostoïevski est extrêmement, non pas excitant, mais stimulant, élucidant et vivifiant en ces sombres temps.
Merci infiniment, Julia Kristeva. Donc, ce soir, comme hier soir et demain soir, l'heure bleue, c'est Dostoïevski, la folie Dostoïevski, à l'heure de la guerre en Ukraine. C'est le numéro 2. On commence maintenant.
Il la prit dans ses bras, retourna dans sa chambre, la fit asseoir sur le lit et entreprit de la déshabiller. Ses petits souliers troués sur ses pieds nus étaient tellement mouillés qu'on pouvait croire qu'ils avaient passé la nuit dans une flaque. Il la déshabilla et la coucha dans le lit, la couvrit et l'emmitoufla, avec la tête dans la couverture. Elle s'endormit aussitôt. Tout cela terminé, il lui vint des pensées lugubres.
Ce soir, numéro 2 du voyage à l'intérieur de Dostoïevski. La folie Dostoïevski, toute cette semaine dans l'heure bleue. Hier, nous avons été introduits dans l'univers de Fiodor Dostoïevski grâce à son traducteur, André Markowitz, et grâce à un de ses lecteurs, Arthur H., qui nous a lu des extraits des Carnets du sous-sol. Ce soir, Julia Kristeva, auteur d'un magnifique livre qui s'intitule « Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage », sera notre compagnera. En deuxième partie, nous entendrons « Crime et châtiment » lu par Arthur H. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Hubert Félix Stephen, grand lecteur de Dostoïevski devant l'Éternel, qui va nous chanter le jeu de la folie.
Cimetière de Charleville, cimetière d'Auvers-sur-Oise, mon âme funérailleuse me fusille le cerveau. Il est fini le temps des loups d'un homme framboise, est le temps des visites aux corbeaux d'Alan Poe. Voici la voile noire du navire de Thésée qui me déchire les
n'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche illuminée rue de la vieille lanterne, où Nerval a pendu son linge et sa mémoire sous le regard des dieux au bout d'un. En zoomant d'apaisantes nuées crépusculaires, fatiguées d'un été qui le rongeait sans fin, et de l'hargneuse odeur des furies sanitaires. Moi je parcours Dublin sur un nuit de cargo qui traverse le temps, perdu de la sagesse, et rejoint le bateau ivre d'Arthur Rimbaud dans le flux. Tout un cœur d'Arthur Guinness. Le jeu de la folie est un sport de l'extrême
qui se pratique souvent au bord des précipices,
ou dans les yeux des filles au bout des couloirs blêmes,
des labyrinthes obscurs au fond des artifices.
Le jeu de la folie est un sport de l'extrême
qui se pratique souvent.
Et maintenant, place à la lecture. Ce soir, ça sera un extrait de Crime et châtiment, lu par Arthur H. En juillet 1864, Dostoïevski envoie une proposition au journal Le Courrier russe où il dit « L'idée du crime et châtiment est le rapport psychologique sur un crime. L'action est contemporaine, tout se passe en une année. » Vous allez entendre un extrait où Svidrigailov, un personnage monstrueux, amoureux de la sœur de Raskolnikov, que celle-ci rejette avec dégoût, lui laisse, en testament, de quoi vivre tout le reste de sa vie et décide de se suicider. Il part errer la nuit dans les ruelles poisseuses de Pétersbourg. Place à Arthur H., Crime et châtiment, extrait.
Svidrigailov reprit ses esprits. Se leva et fit un pas vers la fenêtre. À tâtons, il trouva la poignée et ouvrit la fenêtre. Le vent jaillit frénétiquement dans toute sa cage étroite et plaqua comme un masque de gel sur son visage et sa poitrine couverte d'une simple chemise. Sous la fenêtre, sans doute, il y avait quelque chose comme un parc et, semblait-il, là aussi un parc d'attractions. Sans doute, là aussi, dans la journée, il y avait des chansonniers. Et l'on servait du thé à de petites tables. À présent, les arbres et les buissons faisaient voler leur éclaboussure par la fenêtre. Il faisait noir comme dans une cave, au point qu'on arrivait à peine à distinguer quelques taches noires que dessinaient les objets. Svidrigailov, penché, appuyé sur les coudes au rebord de la fenêtre, regardait depuis déjà bien 5 minutes, sans aucune pause, dans ces ténèbres. Au milieu de l'obscurité et de la nuit, on entendit un coup de canon, suivi d'un autre. « Ah, le signal, l'eau qui monte, » se dit-il. « Le matin, ça va jaillir. Et là, où c'est un peu trop bas, dans les rues, Ça inondera les caves et les celliers. Les rats des caves reviendront à la surface. Et dans la pluie et le vent, les gens, en s'injuriant, mouillés, vont se mettre à traîner leurs détritus jusqu'aux premiers étages. Mais quelle heure est-il donc maintenant ? Et à peine s'était-il posé cette question que quelque part, tout près, dans un tic-tac précipité, comme aussi pressé que possible, une pendule sonna 3 heures. Eh, mais dans 1 heure, il fera déjà jour. Qu'est-ce qu'il y a à attendre ? Je sors maintenant et droit au Petrovski. Là, quelque part, je me choisis un grand buisson trempé de pluie. On l'effleure juste de l'épaule et des millions d'éclaboussures vous giclent à travers toute la tête. Il s'éloigna de la fenêtre, la referma, ralluma la bougie, enfila son gilet, son manteau, mit son chapeau et la bougie à la main sortit dans le couloir à la recherche du loqueteux qui devait dormir, quelque part dans son réduit, parmi toutes sortes de débris et de restants de bougies, pour lui payer la chambre et ressortir de l'hôtel. C'est la meilleure minute, la meilleure qu'on puisse choisir. Il marcha longuement dans le couloir long et étroit, sans trouver personne. Il voulait déjà appeler à haute voix, quand brusquement dans un coin sombre, entre une porte et une vieille armoire, il distingua une sorte d'objet étrange, quelque chose qui était comme vivant. Il se pencha avec la bougie et trouva un enfant. Une petite fille de 5 ans, pas plus, vêtue d'une petite robe trempée comme une serpillière. La petite fille grelottait et pleurait. Ce fut comme si elle n'eut aucune peur de Svidrigailov. Elle le regardait de ses grands yeux noirs avec un étonnement obtus et sanglotait de loin en loin, comme font les enfants qui ont pleuré longtemps et ont cessé de pleurer, qui se sont même consolés et qui pourtant, pour un oui ou pour un non, peuvent recommencer de plus belle. Le visage de la petite fille était pâle, épuisé. Elle était engourdie de froid. Mais comment donc s'est-elle retrouvée ici ? C'est donc qu'elle avait dû se cacher. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Il se mit à l'interroger. La petite fille s'anima brusquement et entreprit de lui répondre en balbutiant à toute vitesse dans sa langue d'enfant. Il y avait quelque chose sur sa maman et maman devait la flapper pour une tasse ou quoi qu'elle lui avait quiassé. La petite fille parlait sans s'arrêter. On arrivait à deviner des choses dans son récit. Ce devait être une enfant mal aimée que sa mère, une cuisinière quelconque, sans doute toujours ivre, employée de cet hôtel, sans doute, terrorisait et rouait de coups. La petite fille avait cassé une tasse de sa mère et avait eu si peur qu'elle s'était enfuie dès le soir d'avant. Elle s'était cachée sans doute très longuement, quelque part dans la cour, sous la pluie. Puis elle s'était faufilée jusqu'à là, s'était cachée derrière l'armoire et était restée là, dans son coin, toute la nuit, pleurant, tremblant d'humidité, d'obscurité et de frayeur, parce qu'elle craignait être frappée très fort pour cette tasse. Il la prit dans ses bras, retourna dans sa chambre, la fit asseoir sur le lit et entreprit de la déshabiller. Ses petits souliers troués sur ses pieds nus étaient tellement mouillés qu'on pouvait croire qu'ils avaient passé la nuit dans une flaque. Il la déshabilla et la coucha dans le lit, la couvrit et l'emmitoufla, avec la tête dans la couverture. Elle s'endormit aussitôt. Tout cela terminé, il lui vint des pensées lugubres. « Il ne manquait plus que je m'en mêle », conclut-il soudain avec une sensation pesante et pleine de rage. « Quelle bêtise !» Pris de dépit, il saisit la bougie pour s'en aller, trouver coûte que coûte le loqueteux et quitter cet endroit. « Ah là là, cette fillette !» se dit-il avec une malédiction, comme il ouvrait déjà la porte. Mais il revint regarder la fillette une dernière fois pour voir si elle dormait. Il souleva prudemment la couverture. La fillette dormait d'un sommeil profond et béat. Elle s'était réchauffée sous la couverture, ses petites joues pâles étaient déjà inondées de couleurs. Mais, chose étrange, cette couleur s'affirmait d'une façon toujours plus nette, plus forte, que ne le fait habituellement le teint rouge des enfants. « C'est une rougeur de fièvre », se dit Svidrigailov, « comme la rougeur du vin, exactement comme si on lui avait donné à boire tout un verre de vin. Ses petites lèvres rouges On dirait qu'elle brûle, qu'elle flamboie. Qu'est-ce que c'est ? Il lui sembla soudain que ses longs cils noirs étaient comme en train de frissonner, de cligner, comme en train de se soulever, et qu'il laissait paraître un regard malin, perçant, une sorte d'appel dans un clin d'œil, quelque chose d'absolument pas enfantin, comme si la petite fille ne dormait pas, qu'elle faisait semblant. Oui, c'est bien ça. Voilà ses lèvres qui s'élargissent dans un sourire, les commissures de ses lèvres frissonnent à croire qu'elle se retient. Mais non, elle ne se retient plus du tout. Ça, c'est déjà du rire, un rire flagrant, c'est quelque chose d'insolent, de provoquant, qui s'illumine dans ce visage que voilà tout sauf enfantin. Ça, c'est la débauche. C'est un camélia. Le visage insolent d'un camélia, d'une prostituée française. Voilà que, cessant complètement de se cacher, ses deux yeux s'ouvrent. Ils l'enveloppent dans leur regard brûlant, obscène. Ils l'appellent, ils rient. Il y avait quelque chose de monstrueux à l'infini et d'humiliant dans ce rire-là, dans toute cette saleté sur le visage de l'enfant. « Quoi ? À 5 ans ?» chuchota Svidrigailov, empli d'une horreur véritable. « C'est... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais elle, voilà qu'elle se retourne complètement avec son petit visage tout en feu. Voilà qu'elle tend les bras. « Ah, satané !» s'écria horrifié Svidrigailov, levant la main sur elle. Mais il se réveilla au même instant. Il était dans le même lit, toujours emmitouflé dans sa couverture. La bougie n'était pas allumée, mais à la fenêtre, le jour était tout blanc. Un cauchemar toute la nuit. Il se leva rageusement, sentant qu'il avait le corps moulu. Il avait mal aux os. Dehors, il y avait un brouillard d'impénétrable. On ne distinguait rien. Presque 5 heures. Dormi trop tard. Il se leva, enfila sa jaquette, son manteau, encore humide. Il palpa dans sa poche le revolver et arrangea la capsule. Il s'assit, sortit un carnet de notes de sa poche et sur la page de titre, la page la plus visible, inscrivit quelques lignes en gros caractères. Il les relut et resta pensif, accoudé à la table. Le revolver et le carnet de notes étaient là, à côté de son coude. Les mouches, réveillées, grouillaient sur l'assiette de viande qu'il n'avait pas touchée, et qui elle aussi était là, sur la table. Il les regarda longuement, puis de sa main droite, qui était restée libre, il entreprit d'attraper l'une des mouches. Il s'épuisa longtemps dans cet effort et n'arrivait pas du tout à l'attraper. Enfin, il s'attrapa lui-même à cette occupation intéressante, reprit conscience, tressaillit, se leva et sortit résolument de la chambre. Une minute plus tard, il se retrouvait dehors. La ville était couverte d'un brouillard épais, laiteux. Svidrigailov se mit en marche le long d'un trottoir de bois, glissant et sale, en direction de la petite Neva. Il avait l'impression d'entrevoir les eaux de la petite Neva, montée durant la nuit. L'île Petrovski, les petits chemins mouillés, l'herbe mouillée, les arbres et les buissons mouillés. Et enfin, ce fameux buisson. Avec dépit, il examina les maisons, histoire de penser à autre chose. Il ne rencontrait pas un passant, pas un cocher, le long de la perspective. Les maisonnettes de bois, couleur jaune canarie, aux volets fermés, avaient un air morne et sale. Le froid et l'humidité le transperçaient de part en part. Il se mit à trembler de fièvre. De loin en loin, il tombait sur des enseignes de boutiques, des marchands de légumes, et il lisait soigneusement toutes les enseignes. Le trottoir de bois se termina. Il était arrivé au niveau d'un grand immeuble de pierre. Un roquet sale, tout tremblant, la queue entre les pattes, lui coupa le chemin. Un bonhomme, ivre-mort, couvert d'une capote, le visage contre terre, gisait au milieu du trottoir. Svidrigailov le regarda et reprit sa route. Sur la gauche, une haute tour de guet lui fusa dans les yeux. « Tiens, se dit-il, mais c'est l'endroit idéal. Pourquoi l'île Petrovski ? Au moins devant témoin officiel. » Il faillit ricaner à cette nouvelle idée et tourna dans la rue. C'est là qu'était la grande maison à la tour. Devant le grand portail fermé de la maison, il découvrit un petit bonhomme, l'épaule appuyée au portail, emmitouflé dans un manteau de soldat gris et coiffé comme Achille d'un casque en cuivre. D'un regard somnolent, il lorgna froidement vers Svidrigailov. On distinguait sur son visage cette douleur dédaigneuse et éternelle qui donne une expression si morne à tous les visages, sans exception aucune, de la nation juive. Les deux, Svidrigailov et Achille, sans rien dire, s'examinèrent un certain temps. Achille trouva enfin que cela faisait désordre qu'un homme pas ivre se tienne devant lui à trois pas, le regarde en face et ne dise rien du tout.
« Et qu'est-ce qu'il vous faut ici, là ?»
murmura-t-il toujours sans bouger, ni sans changer de position. « Bah, rien, vieux frère. Bonjour, » répondit Svidrigailov.
« Si pas l'endroit, ici.
Je pars à l'étranger, vieux frère. »«
À l'étranger ?»«
En Amérique. »«
En Amérique ?»
Svidrigailov sortit son revolver et il leva le chien. Achille haussa les sourcils.
« Oi, ici, c'est pas ma sainte. Là, ici, pas l'endroit. »«
Et pourquoi ça ne serait pas l'endroit ?»«
T'as si qu'ici, pas l'endroit. »«
Non, vieux, c'est complètement égal. L'endroit, il est très bien. Si on te pose des questions, dis ça. Voilà, parti en Amérique. »
Il plaça le revolver contre sa tempe droite.
« Ça suffit pas ici, si pas l'endroit. »
fit Achille en tressaillant, ses grandes prunelles de plus en plus carquillées. Svidrigailov appuya sur la détente.
Comes into being, sweat on my skin. Christmas with
Merci Julia Kristeva d'avoir accepté notre proposition d'être dans la folie Dostoïevski. Cette folie Dostoïevski, vous racontez dans cet ouvrage qui s'intitule Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage, que c'est une vieille histoire Dostoïevski. Elle a commencé quand, la lecture de Dostoïevski pour vous?
Elle a commencé très très tôt parce que je suis d'origine bulgare et le russe était notre deuxième langue. Mon père, qui était orthodoxe et chantait à l'église, adorait Dostoïevski. Mais il nous conseillait, ma sœur et moi, de ne pas le lire parce que c'est trop pesant. Et en plus, c'est religieux et ça ne marchait pas à l'école. Donc je risquais de me faire mal voir à l'école. D'ailleurs, son idée à mon papa était de nous sortir de l'intestin de l'enfer qu'était cet univers-là. Il n'y avait qu'une seule solution, c'est d'apprendre les langues, mais pas le russe, qui était de toute façon là, le français en particulier, et il pensait que j'étais douée pour la clarté de La Fontaine et de Victor Hugo, mais surtout pas Dostoïevski.
Y a-t-il pour vous, Julia Kristeva, plusieurs Dostoïevski? Je dis ça parce que dans l'introduction de votre nouveau livre sur Dostoïevski, vous parlez bien sûr de Freud, qui nommait Dostoïevski le maudit russe, et vous dites que Freud l'avait découpé en quatre parties, l'écrivain, le névrosé, le moraliste et le pêcheur. Est-ce que pour vous, il y a ces catégorisations dans l'œuvre de Dostoïevski?
Il y a beaucoup de Dostoïevski dans Dostoïevski, justement, parce que dans cette vision de lui carnavalesque et tragique, nous avons maintenant, nous, c'est des gens qui ont lu Dostoïevski à la lumière de ses travaux soviétiques et post-soviétiques, il y a une polyphonie de Dostoïevski. Il a découvert le roman polyphonique, mais qui remonte au Carnaval et Rabelais. Mon inspiration psychanalytique est aussi un débat avec Freud. Non seulement je ne réduis pas Dostoïevski à des concepts psychanalytiques, surtout n'ayez pas peur, il n'y a pas de psychanalytisme dans mon approche, mais je ne suis pas d'accord avec ce découpage. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt de nouveau, grâce à la traduction de Markovitch, mais on y reviendra peut-être, des livres clés qui sont de la période post-sibérienne. Après qu'il a été enfermé dans les katorgas, les camps de concentration Omsk, et ce sont les carnets de la maison morte et les carnets du sous-sol. Et à partir de là, s'ouvre un Dostoïevski qui n'a rien de névrosé, mais qui découvre d'autres aspects de l'humanité très moderne, qui se trouvait aussi au XIXe siècle, mais qui abonde aujourd'hui. C'est-à-dire le dédoublement, c'est-à-dire l'homoérotisme. Beaucoup de thèmes des romans de Dostoïevski sont construits sur un homme qui cherche son double dans un autre homme, ou des couples qui sont deux hommes et une femme, ou deux femmes et un homme. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, mais avec un homoérotisme qui est commun à l'humanité, à chacun de nous. Et il a découvert ça de sa propre expérience, mais ça résonne avec beaucoup de recherches autour du genre aujourd'hui.
Il y a très peu de femmes dans l'univers de Dostoïevski.
C'est pas vrai.
Oui, vous dites le contraire, mais quand on lit, c'est pas évident.
Qu'on lit pas tout. Il faut lire les pages. Je connais pas beaucoup de gens qui ont tout lu. Peut-être Markovitch parce qu'il a traduit. Il y a une galerie de personnages féminins que j'appelle un archipel des solitudes féminines, où les personnages féminins sont à la fois fiers, imprenables, violentes, douloureuses et sujettes à des violences qui fait que ça se termine par le féminicide. encore un thème actuel qu'on aura intérêt à lire pour comprendre quels sont les ressorts profonds qui varient évidemment selon les époques et les sociétés, mais qui restent aussi quelque chose qu'il a pressenti dans ce monde où tout est permis.
Il n'y a pas que les vieilles qu'on éventre et les petites filles qu'on viole.
Nastassia Philipovna est quelqu'un de magnifique, mais elle finit sous le couteau de Gogine parce qu'elle est tellement fière qu'elle ne veut même pas se marier avec le prince Michkine pour devenir princesse. Pourquoi ? Parce que être princesse, c'est oublier sa souffrance. Alors elle veut que ça se sache. Elle revendique cette souffrance dans sa fierté. Et c'est quelque chose de magnifique. Toutes les actrices que j'ai connues en Russie, en Bulgarie, jouant son rôle, sont animées et pensent que c'est d'elles qu'il s'agit. Les autres aussi, prenez par exemple la clopinante, celle qui est boiteuse dans Les Démons, elle est capable de repousser Stavrogin, le plus démoniaque des démons, qui préfère, qui pense l'épouser pour se moquer du mariage et de toute relation homme-femme, mais elle le repousse et le traite de quelqu'un de bas et d'irrecevable. Il y a une autre qui s'appelle la Krotkaya, c'est-à-dire une femme qui est très pauvre et qui épouse un prêteur à gages. C'est l'exemple du couple impossible. C'est ce que Lacan appelle le carnaval de l'hétérosexualité. C'est extrêmement parlant aujourd'hui. Elle se suicide, mais elle est une accusation de la maltraitance muette de certaines personnes, hommes en l'occurrence, dans le couple. Ce sont des personnages très modernes et qui nous parlent. Et surtout, les frères Karamazov, les lecteurs masculins, peut-être, se fixent sur les quatre frères, parce qu'il y a aussi le Smerdiakov. Mais ce qui est le plus important, les trois frères, Alyosha, Ivan, Mitya et Smerdiakov. Mais il y a Grushenka, qui est l'épouse de Mitya. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement c'est elle qui révèle le désir des garçons pour leur père, parce qu'elle est la maîtresse du père, elle met en mouvement cette famille d'hommes. Elle excite les désirs et leurs intrigues. Elle les provoque pour qu'ils donnent des pensées ou des fassent des procès. Elle met en vie cette communauté. Et ensuite, Mitya va partir avec elle en exil, il va sortir du bagne, c'est en tout cas son rêve, et comme une prémonition des citoyens du président Poutine, ils vont vivre en Amérique, elle va apprendre l'anglais, mais ils vont rentrer ensuite en Russie, ils vont mourir là-bas. Donc il y a un côté carnavalesque, mais aussi vivant, qui traverse tout le roman et qui met en évidence, non pas un optimisme, mais un pessimisme énergique et décapant qui, chez le lecteur, ouvre à la fois la possibilité de se déprimer en entrant dans les passages sombres des personnages, soit, et c'est finalement la position que j'ai acquise après moult hésitations et lectures où il m'a dévoré, d'ouvrir cette énergie féminine qui donne de la vie à tous les personnages.
D'où viennent les grandes œuvres ? D'un ADN extra-normal, de la mémoire transgénérationnelle, de l'éducation, du contexte social, d'un cabotin qui aime lécher l'hystérie de l'opinion, d'un héros qui réunit là où le pervers narcissique échoue, d'un affairiste qui sait vendre ses fantasmes lancinants au pouvoir de l'opinion ? D'où vient Dostoïevski ?
Je crois qu'il doit beaucoup, d'abord à son destin qui est la biologie,
et donc là, qui a vous fait parlez de lui l'épilepsie. Vous en parlez aussi dans cet ouvrage. Est-ce que ça peut éclairer l'œuvre de Dostoïevski ?
C'est
ce corps
une
souffrant.
Des parties. Et l'autre partie, c'est que c'est quelqu'un qui était très ouvert à la culture européenne. Il a traduit Eugénie Grandet en la réécrivant, en fait. Il était admirateur de Balzac, de George Sand. Il détestait en même temps la bourgeoisie française, mais il se présentait comme le plus grand des Européens. Il est allé en Angleterre, il est allé en Italie. Donc c'est un Européen type qui aime et déteste l'Europe comme nous aujourd'hui. Donc il y a cette espèce de capacité d'assimiler la culture européenne pour lui donner un cachet national, et c'est encore un projet d'aujourd'hui, comment être européen tout en étant nationaux, mais ça, son épilepsie l'a conduit dans des états que Freud a indiqués mais pas explorés beaucoup, mais dont tout le monde parle aujourd'hui, même si on n'est pas psychanalyste, c'est les états limites. C'est-à-dire, je ne refoule pas, mais je clive. Et je coupe en deux. Il y a d'un côté l'enfer, ma souffrance, la perte du sens, le nihilisme, le désir de mort, le suicide, Kirillov et le suicide, le meurtre. La question du meurtre est constamment présente. Et jusqu'à un autre trait actuel qu'il a pressenti, quand tout est permis, non seulement il y aura du féminicide, mais il y aura de l'infanticide et de la pédophilie. Les personnages des pédophiles sont des personnages extrêmement troublants dans l'œuvre de Dostoïevski, à tel point que pour les décrire, il se mettait dans la peau du pédophile et allait raconter dans les salons et même à Turgenev qu'il a violé une petite fille, ce qui a donné une légende un peu sulfureuse de lui, à laquelle je ne crois pas, mais je pense qu'il a intégré cette position pour mieux la décrire et la dénoncer. Parce que si tout est permis aujourd'hui, il y a une attitude psychosexuelle, une liberté risquée qui ne doit pas être permise, c'est la pédophilie. Et c'est quelque chose que personne n'a, ou très peu de gens, notamment aujourd'hui quelques spécialistes anglais qui se penchent sur les côtés sociaux de l'œuvre et non pas politique seulement, et entrent dans ces détails. Donc Dostoïevski, grâce à ses propres fragilités, à ce perte de sens qu'il vivait pendant la crise épileptique et le recouvrement du sens après, s'est intéressé à tous les moments de violence, de folie, de décomposition des humains et a pu trouver une énergie verbale, et c'est là qu'réside son génie, non seulement de souffrir de ces épreuves-là, mais de leur trouver un langage. Vous parlez d'une prose lourde et poisseuse. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des passages comme ça. Mais sa phrase est essoufflée, étirée, hésitante. Et je l'ai reçue, à certains moments, comme un courant qui me...
Comme une recherche personnelle.
Qui vous tire d'abord vers la boue, mais qui traverse cette perte de sens, qui traverse le côté souffreteux et l'incapacité de dire pourquoi, pour mieux chercher le mot le plus exact. Et une fois qu'il a trouvé ce mot exact, et ça se passe généralement dans un dialogue qui reprend ses pataugeages, ses hésitations, etc., il éprouve une espèce de jubilation. Le mot naslojdienie, qui veut dire jouissance, est très fréquent chez lui, avec le mot pranikhnavienie, qui veut dire pénétration dans l'autre. Et quand cette pénétration devient une jouissance, il ne peut pas s'arrêter d'écrire.
C'est jouissance du verbe, orgie carnavalière, dites-vous.
Et résurrection dans le verbe. Et on le voit sortir de la crise épileptique pour sauter tout de suite dans l'écriture, s'arroser de thé et continuer 24 heures sur 24, sa femme en témoigne. Et c'est cette espèce d'alchimie du verbe dont parle Rimbaud, mais dont lui, il fait la réalisation à partir de son malaise et grâce à cette capacité verbale, et qui est quelque chose pour lequel il a trouvé un néologisme. Il trouvait le mot stouchevats, il y a le mot, la racine touche dedans, qui renvoie à l'encre. En allemand, en français, on dit aussi touche parfois, l'encre avec laquelle dessinent les ingénieurs, par exemple, parce qu'ils sortaient d'une école d'ingénieurs. Mais stouchevats, ça veut dire s'anéantir avec fluidité. Donc il passe par cet anéantissement de l'épilepsie, mais aussi par un anéantissement dans des relations humaines difficiles, sociales difficiles. On est au bord de la mélancolie et de l'effondrement, mais avec fluidité. Et cette langue devient fluide, elle devient musicale. Il y a quelqu'un qui a compris ça, c'est Claudel, qui disait que Dostoïevski est à la fois un inventeur et un compositeur, mais c'est Proust qui, si j'ose dire, cachait le morceau en le comparant à Beethoven. Et je termine mon livre en évoquant Proust, parce que c'est extraordinaire. Personne n'a pensé à ça, au dernier quator de Beethoven. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois les adagios, la tristesse, la gravité, et les pizzicatos, les thrillers, etc., d'une comédie. Et penser à sa phrase, comme celle de Beethoven, l'associe encore à l'héritage culturel européen et aussi nous invite à le lire comme une traversée du mal-être et non pas comme une dévoration de mal-être. C'est une folie heureuse, c'est un traumatisme traversé dans la grâce du langage.
Le nihilisme est apparu chez nous parce que nous sommes tous des nihilistes. Ce qui nous a effrayés, c'est seulement sa forme neuve et originale. Comiques ont été l'affolement et la peine que se sont données nos têtes pensantes. D'où sont venus les nihilistes? Ils ne sont venus de nulle part. Ils ont toujours été avec nous, en nous et auprès de nous, écrivait Dostoïevski dans les carnets de notes datés de 1881. C'est l'exergue de votre dernier chapitre, de votre nouveau livre, Julia Kristeva, Le nihiliste chercheur de Dieu, parce que c'est vrai qu'on lit aussi beaucoup Dostoïevski parce que il a nié Dieu.
Le nihilisme, il l'a pas inventé. On a parlé de lui, de nihilisme d'une autre façon, mais il a déclaré qu'il est éternel, qu'il est en nous. Et il renvoie là à ce que j'appelais tout à l'heure le clivage, c'est-à-dire à ces moments qui nous habitent, mais ce sont des moments structuraux, de perdre le sens, de perdre le goût de la vie, et de compenser cela par des développements d'attitudes destructrices. La haine, la violence, les idéologies identitaires qui sont sacrificielles mais aussi totalitaires. On voit se développer ce nihilisme aujourd'hui sous des airs politiques qui prétendent gouverner le monde. Et il a vécu cela. Et quand il dit « nous », il parle de qui? Et c'est là que j'ai développé ceci dans quelque chose que je pensais ne jamais travailler, mais qui fait partie de mon propre héritage culturel, l'orthodoxie. Et je pense que Dostoïevski est incompréhensible sans cet héritage orthodoxe. Nous n'avons pas le temps de développer cela, mais on peut considérer que l'orthodoxie chrétienne, parce qu'elle est davantage intéressée par la souffrance du Christ et les états émotionnel que par la compréhension, la grâce et tout ce qui va se développer de Descartes à Heidegger par la philosophie. Cette orthodoxie plonge celui qui est adepte de l'orthodoxie, le croyant et Dostoïevski lui-même, dans la détresse humaine, dans les états de décomposition et donc est à l'aise dans le nihilisme, dans cette destructivité. Il faut reconnaître que les démocraties illuminées et pleines de valeurs ont du mal aujourd'hui à affronter ces états-là. Et lire Dostoïevski nous permet de mieux comprendre ces états de décomposition qui se retournent en haine et persécution. Donc c'est quelque chose qui nous conduit aussi à nous intéresser à la cohabitation en Europe de différents courants de la foi chrétienne, à laquelle il appartenait côté orthodoxie, il faut pas oublier cela. Ses romans sont christiques et son christianisme est romanesque. Il l'est aussi, et il va le dire dans une lettre en sortant du camp, qu'il est l'enfant du siècle, du doute et de l'incroyance. De nouveau ce dédoublement, il est orthodoxe et il va aller au fond de la foi orthodoxe dans sa sensorialité et en même temps il se bat contre cela, mais pas de manière idéologique, de manière esthétique, je dirais musicale.
Merci infiniment, Julia Kristeva, pour ce très beau livre qui s'intitule « Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage ». Et dont la dernière phrase est « Ces ondulations métaphysiques défient la misère spirituelle, linguistique et sexuelle d'un monde qui peine à gérer son âge numérique et viral ». Merci Dostoïevski et merci Julia Kristeva.
Merci à vous.
C'est juste une seule fois, c'est juste une nuit comme ça, c'est juste ton corps que je soulève, de l'or au coin des lèvres, c'est juste que j'y pense encore un peu, à nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne, des mots qui me reviennent, où je te vois loin la bouche, c'est juste nos lèvres qui se touchent, c'est juste que je cherche encore tes yeux, je cherche encore tes yeux.
C'est avec Lumière bleue de Chien noir que nous allons nous quitter ce soir pour cette folie Dostoïevski numéro 2. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique. Merci à Julia Kristeva. Je rappelle que votre livre Dostoïevski est publié aux éditions Buchet-Chastel. Merci à notre lecteur Arthur H pour la lecture d'extraits choisis par André Markowitz de Crime et Châtiment. Toutes les traductions de Dostoïevski sont celles d'André Markowitz et elles sont disponibles en collection de poche dans la collection Babel. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Marie Clément. Et bien sûr, à Lilian Allôme pour sa réalisation. Nous espérons vous retrouver demain pour la suite de la folie Dostoïevski. Et tout à l'heure, après le prochain journal de la rédaction, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Assayas pour son Very Good Trip.